Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à tous et à toutes. Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Votre nouvelle émission, Chronique d'un siècle. Cette idée de Chronique d'un siècle est née à partir du blog que je tiens depuis maintenant plusieurs années. Blog que vous pouvez suivre ou regarder sur chroniquedunsiècle.com. Cette émission hebdomadaire sera un lien entre le 19e siècle et le 21e siècle. Alors, pour présenter cette émission et pour me présenter, il m'a semblé plus sage de faire appel à une personne qui suit le blog et qui me connaît, car il est très difficile, surtout pour une première fois, de parler de soi. J'appelle donc cette personne. Allô Tom, bonjour. Voilà, nous sommes sur Radio Boomerang 89.7 FM et nous sommes en direct afin que tu puisses me poser des questions qui intéresseront, je l'espère, les auditeurs et les auditrices.
Alors bonjour, donc j'ai une première question. Je voulais savoir d'où était venue l'idée de cette émission Chronique d'un siècle.
Alors en fait, j'ai commencé d'abord par mes élèves, puisque pendant toute ma carrière de professeur, j'ai travaillé énormément sur la culture et j'essayais de contextualiser chaque texte que l'on devait étudier avec les élèves. Et puis ensuite, je me suis dit que cette culture devait se continuer à travers un blog ou une page Facebook, peu importe. Et au fur et à mesure des années, j'ai fait grossir ce blog par des articles. Et lorsque j'ai connu Radio Boomerang, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être bien de pouvoir le partager avec un plus grand nombre. Voilà.
Mais quelle était ton intention en faisant ce blog? Quel but tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu cherches à faire en fait avec cette émission?
En fait, ce que je cherche à atteindre, ce sont les êtres, tout simplement. À savoir que lorsque l'on se reporte dans notre passé, et particulièrement au XIXe siècle, eh bien, on comprend mieux notre époque, on comprend mieux la situation que l'on vit, on comprend mieux notre système politique, notre système économique, et en fait, on se regarde soi-même avec un autre regard. On se comprend mieux et on comprend mieux les autres. C'est en fait très intéressant d'avoir un regard sur ce passé, et particulièrement le 19e siècle, puisque on peut dire que le 19e siècle est la clé de voûte du 21e siècle et que l'on y retrouve beaucoup d'événements ou beaucoup d'histoires qui peuvent être mises en parallèle avec celles que nous pouvons vivre aujourd'hui.
Donc tu expliques en fait, comme beaucoup d'historiens, que évidemment se retourner vers notre passé permet de mieux comprendre notre époque, mais je me demandais pourquoi particulièrement le 19e siècle, après tout, on est au 21e siècle, pourquoi pas s'intéresser plutôt au 20e siècle? Ou alors, je ne sais pas, politiquement, par exemple, beaucoup de gens réfèrent notre époque aux écrits du XVIIIe siècle, des Lumières. Je me demandais pourquoi tu avais ce choix particulier du XIXe siècle, et si j'ai bien compris, en tout cas, ce qui ressort de ton blog, même plutôt la deuxième moitié du XIXe siècle.
Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans notre époque, c'est que si on la compare disons à partir des années 1848, c'est-à-dire à partir de la Seconde République, ensuite le coup d'État du futur Napoléon III, et ensuite la naissance de la Troisième République, ce qui est intéressant dans cette époque bien particulière, hein, de, disons des années 1830 avec la première révolution du 19e siècle, à savoir les Trois Glorieuses, jusqu'en 1914-18, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, on se rend compte que l'on peut à tout moment faire un parallèle avec ce que nous vivons. Ce 19e siècle, disons une petite centaine d'années, c'est le siècle où il y a eu le plus de systèmes politiques différents, où il y a eu le plus de révolutions. Il y a eu quand même, en 1871, le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, à savoir la Commune de Paris. Et cette Commune de Paris, qui a été extrêmement importante pour toutes les lois qui viendront bien des années plus tard, au XXe siècle, elle construit en fait une certaine vision de la vie. Mais si l'on prend par exemple aussi le Second Empire, ce Second Empire, on peut vraiment le mettre en parallèle avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec certains de nos gouvernements. On est très frappé en fait par je n'arrive même plus à trouver mes mots, mais disons, on est frappé par cette ressemblance entre des gouvernements qui, au premier regard, peuvent être très éloignés l'un de l'autre, et qui, en fait, à partir du moment où l'on plonge un petit peu dans leur histoire, on se rend compte que beaucoup de choses sont extrêmement troublante. Et puis, il y a toute la vie aussi, la vie eh bien, sociale, économique, et dans la vie sociale. Par exemple, si l'on prend les courtisanes du Second Empire, bon, les grandes horizontales, comme certains les appelaient, eh bien, elles ont marqué une libération de la femme. Alors, je sais très bien que cela peut choquer, mais ces courtisanes ont permis à la femme de se libérer par des choses très simples. D'abord, la liberté du corps, évidemment, le maquillage, avoir le droit à des sous-vêtements. Donc, ce sont des petites choses qui, en fait, mises bout à bout, font que notre 21e siècle s'est construit. Mais là, je ne donne que quelques exemples. Je reviendrai plus longuement quand je consacrerai une émission, par exemple, sur les courtisanes au XIXe siècle. Voilà.
Donc, si je comprends bien, ce que tu expliques, c'est que, en réalité, si on se référait au XXe siècle, au fond, le XXe siècle est encore vraiment homogène à notre époque, mais que le XIXe siècle est à la fois une autre époque, mais en même temps, on se rend compte, et c'est l'impression qu'on a à la lecture de ton blog, qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont on a l'impression que c'est des nouveautés, des choses qui nous surprennent, alors qu'en réalité, on a tout simplement oublié qu'elles s'étaient déjà produites en fait à cette époque. Comme ce que tu dis sur les courtisanes, avec lesquelles, si je me rappelle bien, tu fais un parallèle avec aujourd'hui des stars de cinéma, ou par exemple, je sais pas, avec des thèmes qui me reviennent comme ça un peu pêle-mêle à l'esprit, comme La Poste, où tu fais une comparaison entre, c'est surprenant, entre l'efficacité de La Poste à cette époque et l'inefficacité actuelle de La Poste. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu de miroirs où, en fait, on a des choses à la fois qui se ressemblent énormément et qui, en même temps, nous renvoient à des contrastes qui, d'ailleurs, des fois, sont assez surprenants. Mais alors, en faisant ce raisonnement, je me dis, c'est peut-être un petit peu une question un petit peu provocatrice, mais d'une certaine manière, ce que tu as tendance à dire qu'en fait, depuis 150 ans, on n'a rien inventé.
C'est vrai que peut-être que cela peut paraître réactionnaire, mais oui, j'ai cette impression. Si l'on prend, aujourd'hui, c'est très à la mode les sites de rencontres, mais bon, avant, il y avait les agences matrimoniales, et ça, c'est le 19e siècle qui l'a construit. On ne peut pas le nier. Tu parlais de La Poste, c'est évident que La Poste la grande époque de la Poste, qui durera jusque dans les années 1980, peut-être 85, mais les grandes années de la Poste, c'est au 19e siècle qu'on le doit. Les transports, c'est aussi toute cette réflexion sur transporter les gens, les transports en commun, c'est le 19e siècle. Et ainsi de suite. C'est vrai. Par exemple, on nous parle aussi de l'ubérisation aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a l'ubérisation. Au 19e siècle, il y avait les petits métiers que l'on peut, en fait, comparer à cela. Sauf que certains petits métiers rapportaient plus que l'ubérisation. Mais ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est un problème que l'on soulèvera dans une émission. C'est vrai que... et c'est en fait ce qui m'avait frappé chez les adolescents, c'est que lorsqu'ils parlent de leur époque, on a toujours l'impression qu'ils viennent d'arriver, qu'il n'y a rien eu avant. Souvent, je leur disais, vous savez, vous n'êtes pas arrivés de Mars. Avant vous, il y a eu des histoires, une vie, des gens qui ont vécu. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, qu'en leur montrant ce lien qui existe entre... Enfin, qui existe entre eux et leur passé, le passé de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc., eh bien, ils prenaient conscience beaucoup plus facilement de leur monde. Et ils regardaient leur société avec un œil plus critique, plus acerbe. Le fait de regarder comme cela en arrière, de se rendre compte que ce qu'on peut leur dire ou leur faire croire en disant que telle ou telle chose est inédite, que c'est nouveau, que c'est révolutionnaire, enfin, etc., eh bien, que cela existait, que des gens s'étaient battus, s'étaient quelquefois sacrifiés pour des idées qui étaient là il y a 100, 150 ans. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je vous propose une petite pause musicale avec l'opéra L'Acmé, écrit en 1883 par Léo Delibes, la star de l'époque. L'Acmé est inspiré du roman de Pierre Loti, Le mariage de Loti, qui avait été écrit en 1880. Ce duo est interprété ici par Marianne Crébassa et Sabine Deveille. Et on se retrouve après pour la suite de notre interview. Bonne écoute. Thank you.
La question suivante, c'était au sujet des sources que tu utilises. Ce qu'il y a de très intéressant quand on parcourt ton blog, c'est que on découvre une quantité de noms complètement oubliés, de gens dont on n'a jamais entendu parler, d'autres évidemment un petit peu plus connus, puisque des fois tu fais référence à des noms très connus, comme je pense à Zola par exemple. Alors c'est aussi intéressant de constater, je trouve, cette distorsion, disons, qu'on a, mais c'est un petit peu sur toutes les époques. On se rappelle, scolairement, on connaît un certain nombre de grands noms de la fin de cette période-là, de la fin du 19e siècle. Je pense à Zola, à Hugo, des noms comme ça qui sont que tout le monde connaît. Et puis quand tu utilises des textes, en fait, on découvre, alors, la floraison incroyable d'écrivains, de journalistes, etc. à l'époque, avec des noms totalement oubliés, totalement ignorés, des noms spécialistes. Et puis on redécouvre aussi souvent un visage un petit peu méconnu de ces grands noms à travers le regard de leurs contemporains qui ont été un peu oubliés. Mais justement, j'ai eu l'impression que dans beaucoup de tes articles, tu te réfères donc à tes écrits, donc d'une manière très d'une certaine manière très littéraire, et je me posais la question de savoir si on risquait pas d'avoir aussi justement une vision un petit peu subjective de cette période, dans où à chaque fois on se réfère au regard particulier de tel ou tel auteur, avec ses travers. Hein, je pense notamment à un auteur dont tu parles parfois, qui me fait beaucoup rire parce qu'il a une plume assez, disons, assez acide. Je pense à Horace de Vielcastel, des auteurs comme ça, assez peu connus aujourd'hui. Et puis, il est évident, quand on lit, par exemple, des extraits de cet auteur-là, qu'il a une manière très subjective de voir son époque. Il y a un peu du mal de tout le monde. Donc, je me demandais comment tu abordais cette question-là. Je sais que les historiens sont souvent ont une approche justement très objectiviste, cherchent à avoir une approche plus liée aux sciences sociales, avec des statistiques, des choses comme ça. C'est évidemment pas du tout ton approche. Et je voulais savoir un petit peu ton sentiment sur cette question.
En fait, c'est vrai que les historiens font un travail qui est fondé sur les statistiques, sur leur travail d'historien, leurs documents d'historien. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Je suis au départ une littéraire. Je veux dire, j'ai fait des études de lettres classiques et je suis une littéraire. Et c'est vrai que j'aime les textes. Alors, bien sûr, tu parlais d'Horace de Vielcastel. C'était un... Disons que ça pourrait être subjectif, oui, mais en apprenant à connaître ces personnages, on sait de quel côté ils étaient. S'ils étaient des aristocrates, s'ils étaient des réactionnaires, s'ils étaient au contraire des révolutionnaires. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer plusieurs regards sur une société donnée. Et puis, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais par exemple, quelqu'un comme Maxime Ducamp, qui, pendant la Commune, a été on ne peut plus ignoble, mais qui était, alors, socialiste. L'aristocratie, hein, il venait de sa famille, était une vieille noblesse de France. Mais en même temps, il se disait socialiste. Et lorsqu'il va vouloir laisser un témoignage sur Paris, eh bien, il va le faire en s'appuyant, lui, sur des documents. Et on a une source extrêmement juste de la façon dont fonctionnaient les transports en commun, les postes, la poste, les hôpitaux, les prisons, etc. Parce que lui-même a fait ce travail. Pour ce qui est des autres auteurs, qui laissent parler quand même beaucoup plus facilement leur fond politique ou sociale. C'est en tant que j'ai envie de dire, littéraires, que je lis leurs textes, que j'essaie de comprendre, que je fais des comparaisons avec des textes venus de gens d'un milieu très différent. Et c'est comme cela que je peux voir les points communs, donc les points vrais, enfin vrais, en tout cas vrais selon les regards que ces hommes ont portés au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons énormément de documentaires. On peut se dire exactement la même chose sur un documentaire, mais ça laisse quand même un témoignage qui est intéressant. Après, c'est à nous, lecteurs ou spectateurs, quand aujourd'hui c'est un documentaire, soit d'aller chercher un petit peu ailleurs pour voir si il n'y a pas des choses qui pourraient être contredites, soit essayer de prendre un certain recul et de ne prendre dans ces textes, en fait, que ce qui peut nous donner une vision d'un monde vivant. C'est-à-dire un monde qui vivait comme nous, avec tout ce que nous, on connaît, avec ses colères, avec les ouvriers, avec les artisans, avec les commerçants, etc. Et ça, c'est... peut-être que les historiens diront que ce n'est pas sérieux, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement humain. Quand quelqu'un nous raconte les souvenirs, si l'on écoute des personnes âgées qui ont connu... Alors maintenant, elles sont toutes décédées. Mais disons, quand j'étais jeune, j'entendais des personnes qui avaient connu la guerre de 14-18. Ces gens me parlaient de leur vision, mais en même temps, ça m'a donné une image de ce que pouvait être cette époque. Et je pense qu'à travers les textes, c'est la même chose. Et puis, dans les textes, il y a tellement de... Tous ces personnages dont tu parlais et qui sont, c'est vrai, oubliés, malheureusement, parce que pour certains, c'est extraordinaire, en fait. Ce qu'ils peuvent nous apporter sur le 19e siècle, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est vraiment extraordinaire. Mais chacun l'apporte avec, encore une fois, le milieu, son intellect, et en fait, on arrive très bien à s'y retrouver. En revanche, pour les grandes stars de l'époque, comme Hugo, Zola, il est très facile de voir ce qu'ils ont pu être. C'est-à-dire que quelqu'un comme Zola,
qui a défendu Dreyfus,
etc., qui, dit-on, aimait le peuple, etc., etc. Zola, lors de la Commune, de Paris en 1871, a écrit des textes littéralement abjects. Donc, obligatoirement, on ne peut que se méfier après des écrits qu'il a pu faire. C'est ça aussi.
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est ce que je trouve appréciable, c'est que tu essaies de donner une vision incarnée d'une époque au-delà des simplifications de l'histoire. C'est vrai aussi que ça nous donne le sentiment, alors c'est pour ça que j'évoquais ce côté un petit peu foisonnant sur ton blog, c'est que ça nous donne au fond la photographie d'une époque qui en fait est une époque faite d'hommes, d'hommes de chair qui chacun ont aussi justement leurs humeurs, leurs passions, qui font l'objectivité en étant eux-mêmes dénués d'objectivité, puisque ils abordent évidemment, tu évoques notamment Zola pendant la Commune, ils abordent des événements de leur époque à chaud, c'est-à-dire sans le recul que nous on a, et c'est vrai que ça nous donne ce sentiment d'une époque avec toute sa complexité, ce que je trouve vraiment remarquable. Appréciable, parce que c'est vrai que nous, on a une vision très simplificatrice des choses qui, d'ailleurs, contribue à donner une appréhension pauvre de notre époque, où effectivement, on a l'impression qu'on a inventé des choses qu'on n'a pas inventées, ou alors on a l'impression que certaines valeurs qu'on véhicule aujourd'hui de manière un peu ininterrogée vont de soi, alors qu'en fait, bon, quand on se réfère à ces époques-là, on se rend compte que tout ça n'est pas aussi simple, que les catégorisations qu'on utilise sont très appauvrissantes. Donc c'est vrai que je trouve cette manière de reconduire aux hommes qui font l'époque très intéressante, mais c'est sûr qu'elle nécessite un très gros travail de redécouverte des textes, de lecture des textes, je crois que effectivement dans ton blog il y a une quantité de travail énorme sur l'appréhension, sur la redécouverte des textes de l'époque. C'est ma dernière question. Je me demande comment tu envisages de pouvoir aussi promouvoir, disons, la lecture de cette époque-là, qui effectivement éclaircit beaucoup la nôtre, d'une manière, comment dire, pas encyclopédique, mais enfin, en nous donnant peut-être une sorte de, pas de catalogue, mais de, disons, une vue un petit peu synoptique de tous ces personnages, de toutes ces tendances. Est-ce que tu veux faire ça sur ton blog, donner une sorte de géographie intellectuelle et sociale de cette époque, ou est-ce que c'est une vue de mon esprit et que c'est pas du tout ton intention?
Si, tu as tout à fait raison, en fait, parce que ce qui m'intéresse déjà, c'est de redécouvrir ces hommes et ces femmes, parce qu'on oublie souvent que beaucoup de femmes ont écrit aussi à cette époque, et donc que ces hommes et ces femmes ont laissé de leur époque. Ce que je voudrais, c'est, oui, encyclopédie, le mot me paraît tellement énorme, mais en tout cas, un répertoire où l'on pourrait retrouver ces auteurs. C'est vrai que ce sont pour la plupart des auteurs qui ne sont plus édités, que l'on retrouve à la Bibliothèque nationale. Heureusement que maintenant, on retrouve ces auteurs sur Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale. Et donc, on peut retrouver ces auteurs et vraiment se délecter, parce que il est toujours très agréable de se rendre compte qu'en fait, ce que soi-même on est en train de vivre, il y a 100 ans, d'autres l'ont vécu, d'autres l'ont ressenti. Et c'est vrai que, au final, un blog, ce n'est jamais fini, mais voilà, j'aimerais petit à petit faire des petites anthologies, en fait. Ça peut être une anthologie sur tous ceux qui ont dit du mal sur la Commune. Ça peut être une anthologie sur ceux qui ont laissé leurs souvenirs des vieux métiers, ou des petits métiers plus exactement, à Paris. Ça peut être une anthologie sur ceux qui ont vécu la Bohème, etc., etc. Et puis, bien sûr, ça peut être aussi une anthologie sur tous ceux qui ont dit des vacheries, qui sont d'ailleurs très souvent justes, sur les grands de l'époque, ceux qui étaient déjà admirés, comme Victor Hugo, celui qui, plus de 100 ans, presque, oui, 150 ans presque, après sa mort, est toujours adulé. On a l'impression que c'est la référence absolue. Or, il est intéressant de voir que d'autres avaient une vision un peu différente de Victor Hugo.
Si je comprends bien, cette plongée dans la vie concrète de l'époque a un caractère un petit peu iconoclaste.
Oui, parce que quand on vit de toute façon dans une époque donnée, on regarde les choses qui se passent en critiquant, en riant, en se moquant, en parodiant, enfin, etc. Et ça, ce n'est pas propre à notre époque. Au 19e siècle aussi faisait cela. Hugo, c'est la première pop star, si je puis dire, de l'histoire. Il ne faut pas oublier que à l'époque d'Hugo, il y avait ce que l'on appelait les hugolâtres. C'est-à-dire que les mecs, quand ils voyaient Hugo, ils se trouvaient mal, exactement comme les fans de Claude François, se trouvaient mal lorsqu'ils le voyaient. Et c'est ça qui est intéressant, parce que d'un seul coup, ce passé devient vivant. Et c'est, en fait, c'est toute mon ambition, si je puis dire, c'est de faire en sorte que le passé soit vivant, pour que nous, on puisse mieux vivre aujourd'hui, et que l'on n'ait pas peur de prendre des décisions, qu'on n'ait pas peur de vivre.
Si je comprends bien, en fait, aller regarder dans ce tableau concret et vivant de l'époque, c'est une manière de se rendre compte qu'on est loin d'avoir inventé l'esprit critique au XXe siècle.
Ah oui, ça c'est même le moins qu'on puisse dire. L'esprit critique est en train de... Enfin, bon, je vais paraître un peu vieille dame aigrie, mais je trouve que l'esprit critique est de plus en plus dur à trouver. On le voit dans les émissions de télévision, dans le journal télévisé, etc. Dans les journaux, même de la presse écrite, je veux dire. Lorsque l'on voit la presse écrite au XIXe siècle, mais dans certains journaux, on se dit, mais on écrit ça aujourd'hui, on a un procès. Et c'est ça qui est plaisant, en fait, dans le XIXe siècle. C'est ça qui me fascine. C'est que ces gens, je suis désolée, mais ils avaient des tripes. Ils avaient, alors certains avaient peur, mais je veux dire, ils avaient des tripes dans le sens où en 1830, ils ont fait la révolution. En 1848, ils ont fait la révolution. Et puis, je veux dire, ces révolutions, quand même, elles se soldaient à chaque fois par quand même quelques morts. Hein. En 1871, ils ont fait la Commune de Paris. Ils y allaient. Et les écrivains, c'est la même chose. Ils y allaient, ils n'avaient pas peur. Je veux dire, c'est certes, beaucoup ont vécu dans la bohème. Certains s'en sont tirés à peu près. Mais combien sont restés crève la faim jusqu'au bout. Mais tant pis, ils y allaient. C'est ça que je trouve assez admirable dans ce 19e siècle, c'est cette espèce de... d'ébullition de l'esprit, de la politique, de l'économie, de la société. C'est que ce soit Second Empire ou Troisième République, je veux dire, on trouve des gens qui se sont vraiment battus, qui se sont opposés. Même si l'on regarde les députés en 1848, je veux dire, il y avait des députés ouvriers. Mais quand je dis ouvriers, ils étaient vraiment d'une famille ouvrière. Ils étaient maçons avant de devenir, je pense à un particulièrement, à Nadeau. Il était maçon avant de devenir député. Et ce sont des gens qui se sont battus sans avoir peur. C'est ça que j'aime beaucoup.
Et comme tu évoques les élections, il me semble que c'est il y a quelque temps que tu as publié... sur des candidats un peu farfelus aux élections à cette époque. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, en voyant ça, qu'aujourd'hui, ça serait tout à fait impossible d'avoir des candidatures, au fond, aussi critiques dans des élections, avec des candidats qui ont soit des programmes, je dirais, proches de certaines formes de folie, de délire de la personnalité, etc., ou alors des personnages qui ont des programmes qui ont une puissance critique par le biais de l'humour, je pense à Alphonse Allais notamment, qui serait absolument inimaginable aujourd'hui, et même je me rappelle dans ma génération, tout le monde s'est ébahi d'une participation de Coluche aux élections présidentielles, et en fait on se rend compte que c'est rien du tout à côté des délires qu'il y a pu avoir à la fin du 19e siècle. Et du coup, alors cette promis, c'est ma dernière question, ma dernière sollicitation, qui est un petit peu amère d'une certaine manière. J'ai presque l'impression, tout à l'heure je te demandais, on n'a rien inventé en 150 ans. Je voudrais presque terminer en me demandant si la seule chose qu'on n'a pas inventée en 150 ans, c'est pas plutôt la pensée unique.
C'est ce qui me fait peur. Plus je vieillis et plus cette idée de pensée unique me fait peur. On laisse très peu notre société, hein, société avec cette société policée, hein, il faut quand même dire les mots, elle l'était aussi au 19e siècle, je ne vais pas dire que c'était la folie, voilà, mais c'était quand même, on laissait la place à la folie, on laissait la place à la folie, et oui, on a une pensée unique. Aujourd'hui, oui. Par rapport au 19e siècle, oui, on a une pensée unique. Et c'est ce qui m'affole. C'est ce qui m'affole. Parce que quelqu'un comme Alphonse Allais, quelqu'un comme Rodolphe Salis, quelqu'un comme Émile Goudeau, qui, je reviendrai sur ces personnages qui ont marqué la fin du 19e siècle et qui étaient, mais délirants, littéralement délirants, voilà quoi. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et les comiques dont on nous parle aujourd'hui, qui font, paraît-il, qui font rire, je veux dire, ils n'arrivent pas à la cheville d'un Rodolphe Salis, par exemple. Qui, lui, mais ça, je reviendrai dessus, parce que c'est vraiment un personnage, Rodolphe Salis. Voilà.
Bon, voilà, j'ai fini mes questions, moi.
Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, Tom.
À bientôt.
Au revoir. Et bien voilà, l'émission se termine. Vous avez pu découvrir ce que sera, ce que pourra être cette future émission. Vous pouvez laisser vos impressions sur radio.boomerang@orange.fr et je vous dis à bientôt pour cette fois-ci commencer les chroniques d'un siècle. À très bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.